reprend la page 21, donc on est chapitre 4, Mishnah 2, page 21, Perek Bet. Perek Dalet, Mishnah Bet. Donc je rappelle les définitions qu'on a expliquées plusieurs fois. Un taureau peut être soit tam, soit muad. Tam, ça veut dire non prévenu, ça veut dire que c'est la première fois que ça lui arrive. Muad, ça veut dire qu'il est prévenu, il dit qu'il savait que ça pouvait arriver. Donc le tam, il est responsable uniquement à hauteur de, enfin, 50%. Et le mouad est responsable à 100% des dommages. On est d'accord? Ça, c'est tam, mouad. Bon. Alors maintenant, notre Mishnah va compliquer un peu les choses. Pourquoi? Puisqu'elle va nous expliquer que des fois, il y a certains taureaux qui sont mouad pour certaines choses et tam pour d'autres choses. Par exemple. Imaginez-vous qu'un taureau, on sait que dès qu'il est à proximité d'autres animaux, il risque de taper. D'accord? On sait qu'il risque de taper. Il va frapper. Donc, il est mouad pour les animaux. On sait que dès qu'il est à proximité, c'est pas une fois, c'est déjà, c'est trois fois déjà, il était à proximité d'autres animaux et on sait qu'il les a tapés. Donc, bien sûr, s'il a encore un animal, il est responsable à hauteur de 100%. Mais ce taureau n'a jamais encorné un homme. Il n'a jamais fait de dommage à un homme. Donc, le propriétaire ne peut pas s'attendre à ce qu'il fasse du mal au fermier. D'accord? Donc là, trois, c'est un cas particulier parce que jusqu'à présent, pour simplifier les choses, c'était soit entièrement tam, soit entièrement mouad. C'est-à-dire soit entièrement non prévenu, soit entièrement prévenu. Mais là, ça complique un petit peu puisqu'on rentre un peu entre les deux. On va expliquer qu'il y a des cas dans lesquels un taureau, il est mouad pour certaines choses et tam pour d'autres choses. Et donc là, ça va compliquer. Donc on lit dans les mots de la Mishnah. Shor, sheu mouad, les minots. Un taureau qui est mouad, ça veut dire qui est prévenu, qui est considéré comme averti. Les minots, pour sa catégorie. Par exemple, un taureau, on sait que lorsqu'il est à proximité d'autres taureaux, il les encorne. Mais par contre, veno mouad les chenomino, mais il n'est pas averti, entre guillemets, les chenomino pour tout ce qui n'est pas sa catégorie. Par exemple, on l'a vu, ce taureau, marcher avec des chevaux, avec des chameaux, et on a vu qu'il les a pas encornés. Donc du coup, il n'est pas prévenu pour eux, parce qu'il est propriétaire, il dit, il a marché avec des taureaux, il a marché avec des chameaux et des chevaux, et il s'est jamais passé de problème. Alors qu'est-ce qu'on... Ou bien, ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, mouad la Adam, veno mouad la Bema. D'accord ? Si on a un taureau qui est... Tenez, monsieur Benzaken. Shalom. Appelle monsieur Benichoux.
Il y a
qu'une
dame qui ne sent pas bien.
Ah, là. D'accord. Okay. Bon, d'accord. Ok, bah, wesh les mains. Ah, je me disais qu'il y avait quelque chose. Ils sont où tous?
Tous les professions médicales sont là-bas. Ouais. On ne peut rien faire.
Ok. Ok. Donc, deuxième cas. Moi de la dame, veno moi de la BMA. Si on a un taureau qui est averti pour encorner des hommes, par exemple, l'exemple que la Gemara amène, par exemple, on sait qu'il y a des taureaux des fois, lorsqu'ils sont à proximité des enfants, ils ont envie de les taper. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Bon, aujourd'hui on va simplifier les choses, on ne va pas parler de taureaux, on va parler de chiens. Voilà. C'est un chien, dès qu'il voit les enfants, il ne sait pas ce qu'il fait. Par contre, dès qu'il voit les autres animaux, il ne fait rien, il est gentil, pas de problème. Donc, moi de la dame, veine moi de la BMA. S'il est averti pour les hommes, veineux moi de la BMA, mais il n'est pas averti pour les animaux. Ça veut dire que bon, il n'a jamais encore né d'autre animal. Ou bien, autre cas encore, moi de la Ktanim, veineux moi de la Gdolim. On sait que c'est un taureau, que c'est un taureau ou un animal qui n'a pas peur d'embêter des petits animaux. Parce que même dans les animaux, nous on croit qu'ils se battent entre eux, mais il y a des principes. Les grands, ils embêtent les petits, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc on sait que celui-là, il embête les petits. Mais jamais il a eu peur de se battre avec les gens du même calibre que lui. D'accord? Et là, tout d'un coup, il s'est mis à frapper quelqu'un du même calibre que lui. Donc le propriétaire a dit, écoute, je m'attendais pas. D'accord? Donc Tanim Gdolim. Et Chou Mouadlo Meshalem Nezek Shalem. L'animal pour lequel, la catégorie pour laquelle il est mouad, il est averti, on paiera 100%. Et Chou Mouadlo, et la catégorie pour laquelle on n'est pas averti, Meshalem Chati Nezek, il paiera 50%. D'accord. Non, c'est le Beddin, parce que chaque fois qu'il y a un problème, il y a un litige qui est ouvert au Beddin, donc le Beddin il note tout ça. Après le Beddin il sait, il dit voilà, tel cheval, tel casier. D'accord. Il y a des casiers judiciaires. Bon.
on marque la
mais là, là, c'est un grand ridouche, là.
La présomption d'innocence.
Bah oui.
On présente, d'accord. On dit que la base, un short, il est toujours, il est jamais moite.
Un short, par définition, il est jamais moite, oui. Il est moite pour certaines choses. Il est moite, par exemple, pour manger. Tout ce qui est relatif à la nourriture, manger, et tout ce qui est relatif à écraser des objets dans la rue, là il est moite sur ça, parce qu'on considère que c'est normal qu'un taureau il écrase ce qu'il y a dans la rue. Mais encorner un homme, un taureau n'a pas de raison d'encorner un homme.
On mettait un signe sur le taureau, quoi, parce que le propriétaire peut être censé de changer.
Oui, 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 bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Pour ça, c'était les techniques du Bedin, hein, c'est évident. C'est bon? Qu'est-ce qui se passe?
C'est une dame par an de qui fait.
Ah, mais là, je
sais
pas ce que tu dis. Parce qu'elle a récupéré c'est vous les.
Ouais.
Merci beaucoup. Pour le mérite de. Comment il s'appelle celui qui a fait l'anniversaire hier?
Raphaël.
Pour le mérite de Raphaël. Raphaël Ben-Messoud. Alors, donc on est en train de dire. On est en train, bon, je résume pour ceux qui étaient en train, pour ceux qui étaient occupés à faire une mitzvah.
Hein?
Je résume ce qu'on est en train de dire. On est en train d'expliquer que pour compliquer les choses, on a des fois un taureau qui peut être considéré averti pour certaines choses et pas pour d'autres choses. Et là, ça complique vraiment les choses parce que vous comprenez que, non, c'est pour le mérite de Raphaël Ben-Messoud.
Ah, c'est Raphaël Ben-Messoud. Ah, c'est l'anniversaire de, mais c'est lui qui a décidé ça. Raphaël hier,
mon petit fils. Bien sûr, c'est une bonne chose. Pour qu'il réussisse dans l'école, pour qu'il amène du plaisir à ses parents. Qu'est-ce qu'on a dit ce matin dans Yom Yom? On a dit que tout effort ne part jamais en vain. Comme ça, on a dit. Donc, on était en train de dire Etche ou Mouadlo, Vetche ou Mouadlo, Meshalem, Khatineze, qui paye donc. Donc, d'accord. Donc, je reprends ce qu'on dit dans la Mishnah. La Mishnah dit que si, par exemple, on a un taureau qui a l'habitude, qui a encorné déjà 3-4 fois des enfants, mais qui n'a pas encorné des grands, donc il est considéré averti que pour les enfants et pas pour les grands. Bien que c'est pas logique. Normalement, on aurait dû dire, bah, puisqu'il a déjà encorné, ça veut dire qu'il peut encorner n'importe quoi. C'est un taureau qui est pas normal. Eh ben non, ça marche pas comme ça. Ça, c'est un premier avis. Ça, c'est un premier avis dans la Mishnah.
Et quand on parle de... Nézek, dommage, ou même
s'il
a tué.
Pardon, j'ai pas compris. Ah, on rentre pas dans les détails. Oui, oui.
Ouais.
Sauf que s'il a tué un homme, dans ce cas-là, il est mis à mort au premier coup. Même s'il n'est pas averti. Oui, il est mis à mort au premier coup. La raison est très simple. Vous savez pourquoi? Rachid explique. Il dit parce que sinon, ce taureau, il marche dans la rue. Et les gens vont dire, ah, c'est ce taureau qui a tué un tel. Déjà, on se pète à parler, etc. Donc, pour ça, les rachamim ont dit non, le taureau, on le met à mort. Il n'y a pas d'histoire. C'est pour pas respect pour la personne qui est partie. Avec le jusqu'à où ça va. Alors, Ambrou Lifne.
Si c'est un accident.
Ah oui. Oui, c'est pas respect. Ambrou Lifne Rabbi Yehuda. Alors, on a dit. Allez, messieurs, un peu. Voilà, on y va. Ambrou Lifne Rabbi Yehuda. Alors, les élèves de Rabbi Yehuda lui ont posé la question suivante. Ils lui ont dit arrêt. Shaya mouad la Shabbatot, ve ne mouad la chol. Imaginez-moi un taureau. D'accord? Un taureau qui a l'habitude, dès que Shabbat arrive, il conne tout le monde. Mais en semaine, il est calme. Alors, il faut savoir que dans le... D'accord? Donc, ils ont posé la question, d'accord? Ils ont posé la question, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous, c'est un cas qui s'est passé. Il y avait un taureau, la semaine il était archi calme. Et le Shabbat, piquait des crises, il se mettait à se fracasser. Alors, du coup, on voulait savoir c'est quoi le dîn. S'il frappe quelqu'un dans la semaine, est-ce qu'on est responsable à 50 ou à 100% puisque la semaine il n'a jamais frappé. D'accord?
On va définir les catégories de.
Bah oui.
À partir du moins, il a frappé une fois, il est considéré comme
moins. Oui, il a frappé une fois, mais la semaine ou le Shabbat? C'est-à-dire, la question qu'ils ont posée, c'est est-ce qu'on peut différencier entre la semaine et le Shabbat? Alors écoutez la réponse qu'il a répondu. Amar Lahem, il a répondu, la Shabbatot Meshalem Nezek Shalem, pour le Shabbat il payera 100% du dommage. D'accord, mettez des croissants s'il vous plaît. V.
Non, c'est pour mettre le croissant.
Pour pas faire de.
Ah, d'accord. Azak. Limot Achol Meshalem Chati Nezek. Et pour le Chol, il paiera 50%. C'est quoi la logique? C'est quoi cette histoire? Alors, Rashi explique la chose suivante. D'accord. Il y a la raison que Rashi explique, et il y a la raison que le Talmud de Jérusalem explique. Rashi explique, il dit que c'est très simple, il dit parce que de manière générale, un taureau, la semaine, il travaille. Et le Shabbat, il se repose. Alors, c'est peut-être pour ça que comme il se repose, donc il a besoin de s'occuper, c'est pour ça qu'il cogne. D'accord. Attendez. Donc, c'est pour ça que, ça c'est la première raison, la raison de Rashi. D'accord. La raison de Rashi qui dit que c'est peut-être pour ça que le taureau encore le Shabbat, donc c'est pour ça qu'il est responsable que le Shabbat, et donc Yom Tov également. Il y a une deuxième raison qui termine dans le Talmud de Jérusalem, il dit que la différence qu'il y a entre le Chol et le Shabbat, c'est qu'en Chol, les gens ils sont habillés avec les vêtements de Chol. Le Shabbat, les gens ils sont bien habillés en vêtements de Shabbat. Et ça peut-être que quand l'animal il voit ça, peut-être que... Peut-être ça lui fait quelque chose, d'accord ? Que ça fait quelque chose que, bon, on ne peut pas savoir ce qui déclenche, hein, c'est de la psychologie, ça, on ne peut pas savoir ce qui déclenche un animal. En tout cas, c'est peut-être pour ça. Et donc Rabbi Yudaï leur a dit, c'est un cas qui s'est vraiment passé. Hein. Donc Rabbi Yudaï leur a dit, écoutez, ce taureau-là, en semaine, 50%, le Shabbat, 100%. Et vous imaginez combien ça peut compliquer les choses ?
C'est bête une bête.
Donc ça c'est voilà, on a deux raisons. Monsieur Benichou, il a une autre raison.
Ah mais moi c'est une blague. Hein.
Ah. Bonne raison ça. C'est quoi la blague? Bon.
Il a la semaine il travaille, mais le samedi il a besoin
d'une semaine. Et Matayutam. J'ai compris, bon. Et Matayutam. Mishia Chazorbosh, le chat aimé Shabbatot. Bon. Maintenant, toujours Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit, à partir de quand un taureau qui était mouad redevient tam? Ça veut dire un taureau qui était considéré averti, est-ce qu'il est considéré averti à vie? Ou bien est-ce qu'il y a moyen, il y a moyen de le ramener à l'état de donc non averti? Alors nous dit Rabbi Yehuda toujours, Mishia Chazorbo, Shlosha, Yeme Shabbatot. Il faut que trois Shabbats, donc pour ce taureau qu'on a parlé là, il faut que trois Shabbats passent d'affilée et qu'il ne fait rien du tout. D'accord, c'est-à-dire qu'il voit, bon, il fait rien, il embête personne. Et une fois qu'il y a ça, c'est bon, on est OK. D'accord.
Il tape dans du bois ou dans du
coin. C'est fini. Tant qu'il n'a pas encorné, c'est bon. Or, il redevient à l'état initial.
C'est-à-dire qu'encorné, je peux fondre un animal ou
quelqu'un. Encorné, c'est passé à l'acte.
Non, mais comment qu'il peut un taureau, il se balade pas tout seul. Comment le Shabbat, personne ne travaille.
Dans le champ. Il
est dans son enclos.
Aujourd'hui, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, un exemple plus moderne, ça aurait été un chien.
Oui.
Un chien. On sait très bien qu'il y a des chiens, par exemple, qui frappent des enfants, qui font mal, qui mordent des enfants. Ça veut dire que la même psychologie, on peut retrouver aujourd'hui pour des chiens. Mais bon, à l'époque, c'était fréquent d'avoir un taureau ou un bœuf à la maison. On l'utilisait pour le champ. Alors, ensuite. C'est bon ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est bon ? Ouais. Allez, monsieur. C'est sérieux comme... Pourquoi elle a pas arrêté à cause de Kippour ? Parce qu'elle a pas pris son médicament Kippour ? Bon. Ouais, je l'ai marqué. Alors, maintenant, on passe à la Mishnah Guimel. Vous avez Mishnah Guimel, troisième Mishnah. Shor Shel Israël. Et toujours le lendemain de fête, il faut redémarrer. Shor Shel Israël, Shenagar, Shor Shel Egdesh. Alors, je vais reprendre pour expliquer cette Mishnah. Je vais répéter un principe qu'on avait étudié au tout début du traité Baba Kama. On avait expliqué la chose suivante. On avait expliqué que la responsabilité qu'on a de rembourser un dommage, d'accord, de rembourser un dommage, et donc toutes ces restrictions qu'on a dit de 50 et 100%, on avait donné deux restrictions parmi d'autres. Premièrement, c'est il faut que ce soit de Nechassim chez NBM Meila. Il faut que ce soit des biens dans lesquels il n'y a pas Meila. Meila, ça veut dire quoi? Pas Neila. Meila. Meila, c'est quoi? Avec un même. Meila, ça veut dire que quand on utilise un bien qui appartient au Beth Amikdash, ou qui appartient à quelque chose de kadosh, et qu'on n'a pas le droit de s'en servir, À l'époque du Beth Amikdash, non seulement bien sûr qu'on doit rembourser ce qu'on a utilisé, mais à part ça, on devait amener un sacrifice. D'accord ? Donc on devait rembourser, par exemple, imaginez-vous quelqu'un, sans faire exprès, il a fait un don d'un animal, par exemple, au Beth Amikdash. Il a fait un don, comme ça. D'accord ? Maintenant, sa femme, elle est passée, elle ne savait pas qu'il a fait le don, sa femme, elle s'est servie de l'animal, elle a pris, elle a une chachorat, elle a fait la shrita, etc. Bon, l'animal est inutilisable. Donc il faut rembourser. Alors, il faut rembourser l'animal plus un cinquième. Donc 120%. À part ça, à part le fait qu'il rembourse, il devait amener un sacrifice au Beth Amikdash. D'accord ? Alors après, c'était un sacrifice qui dépendait, ça dépendait si on était riche ou pauvre, etc. Mais en tout cas, on devait amener un sacrifice au Beth Amikdash pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu pour le fait d'avoir utilisé quelque chose qui appartient au Beth Amikdash. Quelque chose qui appartient à la Kdusha, qui s'appelle Hekdesh. Donc, le fait d'utiliser un objet Hekdesh, ça s'appelle Meila. D'accord ? Morel. Moel. Même en hébreu moderne, ça se dit Moel. Moel, c'est quand, par exemple, vous avez des fois des gens qui sont à des postes très importants et qui se servent de l'argent qui ne leur appartient pas. D'accord ? On appelle les gens qui sont Moel, avec un Aïn. D'accord ? Moel, c'est se servir alors qu'il n'a pas le droit de se servir. Meila. Donc, Meila. Donc, au début de la Maseret Baba Kama, on avait donné une restriction. On avait dit que pour que tous ces principes de responsabilité à 50 et à 100%, c'est uniquement sur des biens qui n'ont pas Meila, ça veut dire que si on les avait utilisés, on n'aurait pas l'obligation d'amener un korban, parce que ça veut dire qu'on n'aura pas manqué de respect au Beth Amikdash. Donc en d'autres termes, ça veut dire que ça doit être un objet qui appartient, ça doit être un dommage entre deux objets qui appartiennent à des gens profanes. D'accord ? Qui appartiennent pas au Beth Amikdash. Donc d'où le cas de notre Mishnah. D'où le cas de notre Mishnah. Alors, le cas de notre Mishnah. Chor Shel Israël, chez Nagar, Shor Shel Hekdesh. Là, c'est un cas qui est étonnant. C'est un cas qui est très étonnant. C'est un cas qui est très étonnant parce que si c'est comme la Gemara explique, la Gemara dit, c'est une Xerat Akatou, c'est un décret de la Torah. Parce que c'est illogique, c'est complètement illogique ce que je vais dire. Shor Shel Israël, chez Nagar, Shor Shel Hekdesh. Imaginez-vous un taureau d'un Israël. Donc c'est un taureau standard, normal, qui m'appartient par exemple. Chez Nagar, Shor Shel Hekdesh, qui a encore né un taureau qui appartient à Hekdesh. Hekdesh, ça peut vouloir dire qu'il appartient au Beth Amikdash. Ça peut vouloir dire aussi qu'il appartient à la synagogue. D'accord ? Donc il y a eu un dommage entre ce qui appartient à quelqu'un de profane, normal, et ce qui appartient à Hekdesh. Ou bien le contraire. Ou bien, Veshel Hekdesh et Nagar, la cherche à l'Israël. Ou bien si c'est un taureau, d'accord, qui est consacré, qui a endommagé, qui a encore né un taureau qui appartient à Israël. On est d'accord ? C'est quoi le din dans ce cas-là ? Patour, il est patour. C'est-à-dire il paye ni 50%, ni 100%. Il paye 0% du dommage. C'est pas logique. Quoi, on paye pas ? C'est quoi cette histoire ? Hein ? Alors, chez Neymar, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment illogique. C'est illogique, d'accord ? Ne cherchez pas la logique, c'est complètement illogique, d'accord ? C'est une Xerat HaKatuv, c'est un décret de la Torah dans la Parasha Mishpatim. La Parasha Mishpatim qui traduit assez loin. Là-bas, la Parasha Mishpatim, elle dit « Shor Re'eu ». Elle dit un taureau qui va encorner le taureau de son ami. Donc de là, on a appris son ami, ça veut dire quoi son ami ? Velo Shor Shel Hekdesh, ça veut dire un taureau qui appartient à son ami, c'est-à-dire qui appartient à quelqu'un de... C'est pas forcément son ami. C'est-à-dire quelqu'un qui est comme lui, qui est profane. Velo Shor Shel Hekdesh, mais pas un taureau qui appartient Shel Hekdesh au Beth Amikdash. Alors, bon, maintenant, encore un autre cas, un peu plus compliqué. Shor Shel Israël, chez Nagar, Shor Shel Nochri. Je pense qu'il y en a qui ont déjà vu la suite. Donc, si on a un taureau qui appartient à un juif, d'accord, qui a encore né un taureau qui appartient à un non-juif. D'accord ? Fatour. Alors, peu importe si le taureau était tam ou moad. C'est-à-dire si le taureau, ça fait 10 fois qu'il le fait ou une fois qu'il le fait. D'accord ? Fatour, il est fatour. C'est quoi cette histoire, hein ? Fatour ? Fatour, il est fatour, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il paye combien de pourcents du dommage ?
Zéro.
0%. C'est du racisme, c'est quoi ça ?
Ouais, là, il y a du racisme. Surtout après la suite.
Alors, écoutez bien. Maïmonide explique. Et avec ça, vous allez voir avec ça comment ça répond à la question. Maïmonide explique dans les lois de Niske Mamon, donc dans les lois de dommages et intérêts, on aura appelé ça aujourd'hui. Il dit la chose suivante. Il explique qu'à l'époque, il y avait un principe dans les lois des Goïms qui disait que on ne responsabilise pas un homme pour son animal qui est endommagé. C'est-à-dire chez le Goïm, c'est-à-dire dans les tribunaux des Goïms, à l'époque, il y avait un principe qui disait que si mon animal est endommagé, c'est mon animal, c'est pas moi. Donc, explique Maïmonie, tu dis, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on fait comme eux. Ça veut dire que quand mon taureau a encore un taureau d'un gars, je lui dis, écoutez, chez vous, on rembourse pas, donc dans ce cas-là, je vous rembourse pas. D'accord ? Mais
la loi des goyim change.
Ah, voilà. Donc a priori, de ce Rambam, on comprend que si la loi des goyim elle change, on doit changer nous aussi. D'accord ? Donc on rembourse. On rembourse, alors, attention, ça veut dire qu'on rembourse selon la loi des goyim. Ça veut dire que si par exemple selon la loi des goyim, tu rembourses directement 100% à la première fois, et ben tu te suis la loi des goyim. Ah oui. Ça veut dire que tu peux pas dire au goy, tu peux dire oui, mais chez nous dans notre Torah, les deux premières fois c'est 50%. Non, tu suis la loi du goy. À l'époque on remboursait pas, tu rembourses pas. Maintenant on rembourse 100, tu rembourses 100. D'accord ? Donc celui qui veut se défendre comme ça avec son assurance, peut pas dire dans notre Torah c'est comme ça. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a Rambam qui vient par derrière. Je sais. C'est Rambam dans le Chot Niske Mamon. Et là-bas, le commentaire qui s'appelle Migdal Roz sur le Rambam, qui prouve ce que le Rambam a dit du Talmud Yerushalmi. Que le commentaire du Talmud Yerushalmi, enfin, dans la Gemara du Talmud Yerushalmi, sur cette Mishnah, on peut comprendre ce que Rambam a dit. Il n'a pas dit simplement parce qu'il avait peur de ses voisins.
On peut dire comme simplement comme avant, que c'est pas son travers. L'ergoy n'a jamais dit que c'est un travers.
Parce que, oui, j'ai compris la question. Parce que Maïmonide, il comprend que ça, on n'apprend pas de Shoréou. Ce détail du Goy. Shoréou, c'est uniquement pour dire que il faut que ce soit quelqu'un qui est humain comme toi. C'est-à-dire que quand ça appartient à une entité de Gdusha, ça n'appartient pas à un humain. Mais sinon, un Goy, c'est un humain. Donc tu payes, aujourd'hui, on paye. Veshen Lochi, chez Nagar, les cherche à l'Israël. Alors ça, c'est compliqué aussi. Vous avez vu la suite déjà?
Ah oui. Partout
sur ou alors les versions... Attendez, maintenant c'est le contraire. Veshen Lochi, Shenagar, les Chor, chez l'Israël. Si maintenant on a un taureau d'un goy qui a encorné le taureau d'un juif, Ven Tam, Ven Muad, Meshalem, Nezek Shalem. Qu'il soit Tam ou Muad, c'est-à-dire qu'il soit averti prévenu ou non prévenu, d'accord, averti ou non averti, il paye toujours 100%. Quoi si ça? Hein? Qu'est-ce qu'il dit Rambam?
Ben là.
Hein? Alors comment vous expliquez maintenant chez vous? Michel, expliquez.
La Gemara.
Oui, alors qu'est-ce qu'il dit la Gemara?
La Gemara, il s'appuie sur un verset.
Alors il y a un verset dans Habakkuk. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Vas-y, traduis le verset.
Il se lève et la terre vacille. Il regarde et fait sursauter les peuples. Il s'agit en fait des païens. Ils n'observent pas les sept commandements dans la fille.
Bon, alors. Je vais d'abord expliquer le commentaire de la Gemara tel qu'il est expliqué par Tosfot. Après, on expliquera ce que Rambam dit. La Gemara dit la chose suivante. Le verset, il dit, Amad vaïmod, dans Habakkuk, il dit, Amad vaïmodad aret, Ra'a vaïeter goyim. Traduction, tu as dit, il se lève et
la terre vacille.
D'accord. Il se lève et la terre vacille, et il a vu et,
il regarde et fait sursauter
les goyim. Alors, Tosfot explique la manière suivante. Il dit que Akadosh Baruch Hu a donné, même aux nations, il leur a donné sept lois. Sept lois noachis, Sheva Mizot de Noach. Et lorsque Akadosh Baruch Hu a vu que les goyim n'accomplissaient pas les sept mitzvot, alors il a rendu efker leur argent, il a abandonné leur argent pour les juifs. Il a dit, dans ce cas-là, leur argent ira pour les juifs. Ça, c'est une première explication. Donc, a priori, c'est ce qui expliquerait pourquoi. Dans ce cas-là, le gars nous dit, tu payes 100%. C'est-à-dire que normalement, tu devrais payer 50%, mais on ne veut pas te faire gagner 50%, tu vas payer 100%. Ça, c'est une première raison. Ça, c'est la raison qui est expliquée dans Tosfot. C'est écrit dans la Gemara, hein. Il y a une deuxième raison qui est expliquée par le Rambam. Une deuxième raison qui est expliquée par le Rambam, qui dit que c'est un knas que les Chachamim ont mis à l'époque, encore une fois. C'est une punition que les Chachamim ont mis à l'époque sur les goyim. Pourquoi? Puisque les goyim, ils avaient l'habitude à l'époque que lorsqu'ils endommageaient, ils s'enfuyaient. D'accord? Ils fuyaient, c'est-à-dire qu'ils endommageaient, d'habitude, après ils partaient. Premièrement, ou bien, lorsqu'ils cassaient quelque chose, d'accord, ils laissaient le dommage sur place. Peu importe, première, deuxième, troisième fois, ils n'en avaient rien à faire. Donc Maïmonide explique, il dit qu'a priori, ça serait un knas, une punition que les Chachamim avaient fait en Eretz Israël, dans la terre d'Israël, pour punir ces goïms-là qui voulaient embêter les Juifs. Et dès qu'ils faisaient un dommage, ils se sauvaient ou bien ils laissaient en plan et partaient. Donc pour les punir, on leur a dit attention, la première fois que vous endommagez, c'est 100% de dommage, c'était une punition. Mais encore une fois, si on suit ce que Maïmonide dit, selon ce que Maïmonide dit, aujourd'hui ce principe ne s'applique plus. Puisqu'aujourd'hui les goïms font attention à leurs dommages. Aujourd'hui ils ne laissent pas comme ça en plan les dommages. D'accord. Donc, vous voyez, comme on peut pas prendre simplement la Mishnah, la traduction, on est obligé de voir le commentaire derrière, parce que sinon on peut se tromper, on peut mal comprendre.
Mais là, on parle de païen, c'est pas bon.
Alors, justement, donc, de là, le Meiri, il explique, le Meiri explique la chose suivante. Il dit que, il dit que la Mishnah parle ici uniquement de civilisations qui ne faisaient pas attention à leur argent. Et donc, on était obligé de les punir pour essayer de les sensibiliser. Mais le Meiri, il dit, il a vécu dans plusieurs endroits, le Meiri, il a vécu en Eretz Israël, il a vécu en Espagne, etc. Il dit, aujourd'hui qu'on voit que les civilisations ont, il appelle ça Darke Datod Venimusim. Ça veut dire qu'ils ont des principes de politesse, ils ont des principes, ils ont une religion.
Même,
d'accord? Oui. Mais bon, mais ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils voulaient embêter. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, bon, un petit peu comme on voit aujourd'hui en Israël, dans les quartiers, qui sont pas juifs. D'accord? Un peu ce qu'ils veulent, ils où ils veulent, personne leur dirait. Un peu la même chose. C'est ce qu'ils voulaient. Donc c'est un classe qu'on leur a donné pour essayer de les sensibiliser. Mais le Meiri, il dit aujourd'hui, donc lui il a vécu dans plusieurs endroits, je veux dire en Israël, en Espagne, etc. Il dit aujourd'hui qu'on voit, en Italie il était aussi, aujourd'hui qu'on voit que même les goïms, ils ont darké datod venimusim, ça veut dire qu'ils ont certaines politesses, ils ont une façon de vivre, ils ont une religion, même si c'est une religion qu'on n'accepte pas, mais c'est une religion, ça veut dire qu'ils ont un mode de vie. Dans ce cas-là, c'est évident que ils respectent les dommages qu'ils font, et donc dans ce cas-là, ce principe ne s'applique plus. Donc on doit toujours appliquer le principe des goïms. D'accord? Un autre principe qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un dommage entre un juif et un goï, dans un pays goï, on suit toujours la loi des goïms. On est d'accord? Quand il y a un dommage entre deux juifs, c'est une autre question. Quand il y a un dommage entre deux juifs en France, est-ce qu'on a le droit de suivre, si nous deux on est d'accord, est-ce qu'on a le droit d'aller au Bedin pour suivre la loi française? Ça c'est une autre question. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, si un juif a endommagé un goï dans un pays de goïm, on est obligé d'accepter la loi des goïms. On n'a pas, on peut même pas l'amener devant un tribunal juif. Ça, c'est ce qui explique ça.
Le tribunal juif, pour n'importe quel cas, on doit y aller.
Entre deux juifs. Alors, c'est une question. Quand c'est entre deux juifs pour un dommage, matériel, d'accord,
j'ai pas besoin d'aller devant.
Normalement, quand c'est un dommage entre deux juifs, il faut aller chez un tribunal juif. Et c'est quelque chose que, bon, en France, c'est plus tellement comme ça, mais par mon grand-père, à la vache à l'homme, il me racontait, il disait qu'au Maroc, c'était accepté par la police, par la loi. Ça veut dire que quand il y avait quelqu'un par exemple qui voulait pas divorcer sa femme, quand il y avait quelqu'un qui voulait pas écouter le jugement du tribunal juif, on prévenait la police et la police mettait en exécution le jugement du tribunal rabbinique. Pour vous dire que c'est quelque chose, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi à l'époque de la Gemara. On avait un Resh Galuta, on avait des gouvernements qui appliquaient le système juridique juif.
Non, mais même le mariage juif était accepté.
Oui.
Il n'y avait pas besoin de sa mairie.
Oui.
Il n'y avait pas de mairie.
Par exemple,
c'est ça que je dis.
Pour la Ketouba. Oui, pour la Ketouba. Il a raison, pour la Ketouba.
En Tunisie, par exemple, il y avait la loi française. La loi de la Ketouba, on passait à la mairie.
La loi de la Ketouba. Il m'a dit, mon oncle m'a raconté, j'ai un oncle qui est encore à Casablanca, il m'a dit qu'encore aujourd'hui, dans les tribunaux marocains, on peut amener une ketouba, parce que des fois les gens dans la ketouba ils s'engagent, d'accord? Et ben on amène la ketouba, c'est considéré une preuve pour eux. Considérer une preuve et quand ils divorcent, ah oui, c'est un acte, c'est pour eux, c'est un contrat en bonne et due forme. Ils font traduire et.
C'est un acte sans privé, en fait.
Et c'est en Israël qu'on a des problèmes aujourd'hui.
La ketouba n'est pas.
Bon, pas toujours, pas pour l'argent.
Ah bon?
Ouais, il complique. Bon.
Bon, l'argent,
ben, oui, mais en France, non. Bon. Voilà. Bon, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Donc, prochain cours après les Hagim et Bezrat Hashem.